Chapitre 8. Ah, les belles lettres. La littérature. Dans ce chapitre, nous étudierons les grands courants de la littérature et les principaux genres littéraires. La littérature, c'est l'aventure ultime. Celle des mondes imaginaires, des sentiments vécus ou rêvés, des humeurs et de la vie intime. Si la pratique littéraire apparaît dès l'Antiquité et se poursuit au Moyen Âge, il faut attendre la Renaissance pour voir apparaître des courants littéraires véritables avec la constitution du groupe de la Pléiade. Rivaux ou alliés, ils se multiplient et font de la littérature un enjeu primordial de débat au sein des sociétés. Grimpons les flancs escarpés du Parnasse, revivons les heures noires du fond de la mine du roman naturaliste, oublions tout dans l'écriture automatique d'un cadavre exquis surréaliste. Ah, plume sergent-major, encre violette, odeur de poussière du buvard constellé. Les courants littéraires. Le courant ou mouvement littéraire permet de regrouper des auteurs mus par un idéal esthétique commun ou voués à une idéologie et de relier des œuvres autour des constantes qui s'en dégagent. Thématique, genre, style de l'auteur. Ce type de classement permet de donner un point de départ pour l'analyse d'une œuvre. Souvent, les courants chevauchent leurs époques ou même se chevauchent entre eux, et leur division reste très arbitraire. La littérature antique. Homère et le monde des héros. Ah, Homère, notre premier auteur occidental véritable. Son œuvre et la vie de ses héros parcourent notre imaginaire. Homère vécut au 8e siècle avant notre ère en Asie mineure, sur les côtes et les îles proches de l'actuelle Turquie. Il nous lègue deux épopées. L'Iliade retrace le siège de Troie par les Achéens, les Grecs. Elle doit son titre à Ilion, l'autre nom de Troie. L'Odyssée rapporte le retour mouvementé d'Ulysse, roi d'Ithaque, vers sa patrie, une île à l'ouest de la Grèce. Odysseus signifie « Ulysse » en grec. Les événements décrits sont bien antérieurs à Homère puisqu'ils datent de 1200 avant Jésus-Christ, soit environ 4 siècles avant la composition des récits. Mais le 8e siècle avant Jésus-Christ est aussi le moment où la langue grecque s'écrit. Il est probable qu'auparavant, des poètes itinérants, des aèdes, allaient de royaume en royaume chanter les exploits des héros. Ils pouvaient y ajouter des variations en fonction de leur goût pour tel ou tel personnage et des désirs du public. L'Iliade. C'est l'histoire du siège de Troie racontée à partir de 3 lieux. Le camp des Achéens, assiégeant la ville, à l'intérieur des murs de Troie et au sein de l'Assemblée des dieux. Les actions principales de l'intrigue peuvent presque se diviser en actes. Acte 1. Achille est furieux. Agamemnon, roi d'Argos et chef de l'armée des Achéens, lui a refusé dans sa part de butin la belle Briséis et l'a conservée pour lui. Fou de colère, Achille se retire sous sa tente, dépose les armes et ne prend plus part au combat. Privés du héros qui les galvanise, les Achéens sont repoussés par les Troyens. Acte 2. Patrocle, ami d'Achille, lui emprunte ses armes. Dans un duel contre Hector, fils du roi troyen Priam, il perd la vie. Achille revient au combat, tue Hector et traîne le corps attaché à son char devant les murailles de Troie. Acte 3. Le vieux Priam, en larmes, émeut Achille qui lui rend le corps d'Hector. Chacun procède alors aux funérailles, de Patrocle pour les Achéens, d'Hector pour les Troyens.
Le saviez-vous ? Mauvais présage. Cassandre, fille du roi de Troie Priam et de la reine Hécube, avait reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Ce cadeau divin n'était pas totalement gratuit. Le dieu attendait en retour ses faveurs. Cassandre prit le don, mais refusa de tenir sa promesse et de céder à Apollon. Or, un dieu ne peut reprendre son don, mais peut le modifier. Cassandre garda sa faculté de prédiction, mais Apollon décida que personne ne la croirait jamais. Sa punition fut d'assister à la chute de Troie, grâce au cheval creux, exactement comme elle l'avait prédit, sans que personne n'accepte de la croire. Depuis, dans le langage courant, nous appelons Cassandre toute personne qui prévoit quelque chose de désagréable. C'est peut-être vrai, mais détestable de le savoir à l'avance.
L'Odyssée. Composé de 24 chants, le récit raconte la chute de Troie, puis les déboires d'Ulysse sur le chemin du retour vers son royaume d'Ithaque. Ulysse paye par ses souffrances ainsi que par celles de sa femme et de son fils Télémaque l'offense faite au dieu de la mer Poséidon. En effet, il a crevé l'œil unique du cyclope Polyphème, le bavard, son fils. Le dieu le poursuit de son implacable vengeance, mais finit par être dupé par Athéna, protectrice d'Ulysse. L'intrigue peut se résumer ainsi. Acte 1, la quête de Télémaque, chants 1 à 4. Le fils d'Ulysse part à sa recherche à Pylos et à Sparte. Il y questionne les rois Nestor et Ménélas. Pendant ce temps, Pénélope, femme d'Ulysse, tient à distance ses nombreux prétendants. Croyant Ulysse mort, ils veulent l'épouser pour s'emparer du trône d'Ithaque. Acte 2. Les récits des aventures d'Ulysse. Il massacre à l'arc tous les prétendants et reprend son trône, sa femme et son fils.
N'oubliez pas, toujours sur le métier. Pénélope est aux abois. Sa beauté, célèbre pendant sa jeunesse, est grande encore. De plus, l'épouser, c'est devenir roi d'Ithaque. Les prétendants se bousculent. Comment les contraindre à patienter? Pénélope prend prétexte d'un suaire destiné à son beau-père, Larte. Homme âgé, il devrait mourir sous peu. En bru attentionné, Pénélope doit tisser de ses propres mains le linceul futur. Dès qu'il sera fini, c'est promis, elle choisira un prétendant et l'épousera. Tout au long du jour, chacun peut la voir penchée sur son métier à tisser. Mais la nuit, elle défait son ouvrage. Chaque nuit, pendant 3 ans, jusqu'au retour du lit. Depuis, en guise de moquerie, on appelle « toile de Pénélope » le travail de quelqu'un sans cesse recommencé, mais destiné à n'être jamais achevé.
La tragédie grecque. Nous devons pour la tragédie, comme pour tant d'autres domaines, une grande partie de notre héritage culturel aux Grecs. Thepsis, 525-456, imagine de faire donner la réplique au chœur par le coryphée, le chef du chœur. Le mot « thespian », acteur, est issu de son nom. La pièce commence par une scène d'exposition, le prologue, puis le chœur entre dans l'orchestre en chantant le parados, chant entonné par le chœur quand il pénètre pour la première fois dans le théâtre. Ensuite se succèdent les scènes jouées. Eschyle, 525-456, s'empare du genre et le convertit en une véritable action en mettant en scène plusieurs personnages et en imaginant le dialogue. Des 80 tragédies qu'il compose, il ne nous en reste que 7. Il dépeint un monde de guerre et de violence où la force et la fatalité sont en jeu. Il met aussi en scène la jalousie des dieux acharnés contre leurs victimes. Ses principales œuvres, Les Suppliantes, Les Perses et la trilogie dramatique de l'Orestie centrée sur la famille des Atrides, Agamemnon, les Coéphores et les Euménides. Fils d'un riche armurier athénien et membre de la haute société, Sophocle 495-405 occupe entre autres fonctions importantes celle de stratège aux côtés de Périclès. Avec lui, le rôle du chœur diminue encore. Ses personnages, écrasés par la fatalité mais à la conscience intacte, se définissent par la révolte. Ses principales œuvres, Ajax, Antigone, Électre, Œdipe roi. Euripide, 480-406, apporte une nouvelle conception de la tragédie et s'intéresse à la philosophie aussi bien qu'aux formes d'expression nouvelles, la rhétorique ou la musique. Ses personnages obéissent à leur passion. Ils montrent l'homme aux prises avec des forces qui le dépassent. Les dieux, la matière, l'hérédité, les autres hommes. Œdipe ou Oreste incarnent les problèmes de la responsabilité et la solitude de l'homme face à sa propre fatalité. Parmi les 19 pièces conservées, les Troyennes, Andromaque et Médée. La littérature médiévale. Les textes fondateurs. Le Chevalier de la Charrette, écrit en 1181, met en scène l'amour courtois de Lancelot au sein du monde arthurien. C'est le 3e des 5 romans écrits par Chrétien de Troyes, composés sur l'ordre de la comtesse Marie de Champagne. L'histoire des deux amants malheureux, Tristan et Iseult, a été reconstituée à partir de fragments d'œuvres écrites au XIIe siècle par Béroulle et Thomas d'Angleterre. Le texte de Béroulle est fragmentaire et constitue l'un des manuscrits les plus anciens de la littérature du Moyen Âge. Il a été retrouvé dans un très mauvais état. Le Tristan et Iseult que l'on connaît aujourd'hui n'est donc qu'une reconstitution moderne. La chanson de geste. Les chansons de geste, gesta en latin signifie « haut fait »,« exploit », sont des poèmes narratifs chantés qui traitent de hauts faits du passé. Apparues vers le IXe siècle, elles évoquent des sujets essentiellement guerriers, généralement situés à l'époque carolingienne. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, 150 chansons de geste environ ont été écrites. Les plus anciennes sont la chanson de Roland et la chanson de Guillaume, écrites vers 1100. Destinées à être chantées avec un léger accompagnement musical, elles se développent dans le nord de la France, notamment en Normandie. Sa finalité est d'exalter les héros dont l'histoire a retenu le nom. Écrite en vers, elle est divisée en strophes de longueur variable qu'on appelle des laisses. Les vers sont construits sur le principe d'assonance, c'est-à-dire la répétition de la dernière voyelle du mot plutôt que la rime. Son origine peut être multiple. L'imagination populaire, les cantilènes, les épopées carolingiennes créées par des clercs dans les sanctuaires. Apparentées par la forme à la chanson de saint, avec des vers de 8 ou 10 syllabes.
N'oubliez pas, la chanson des Nibelungen. La chanson des Nibelungen a été rédigée par un auteur anonyme. Elle comprend deux parties, les amours et la mort de Siegfried, puis les rois burgondes. Inspirée des légendes et des chants mythologiques des Eddas nordiques, des recueils de poèmes sacrés, elle est mise en musique par Wagner entre 1854 et 1872. Vaste épopée de 2372 strophes de 4 vers. C'est un mélange confus d'histoire et de légende. Siegfried, fils du roi des Pays-Bas, se rend à la cour de Günther, roi des Burgondes. Il s'éprend de Kriemhild, sœur de Günther. Celui-ci veut bien lui accorder sa main, à condition qu'il l'aide à conquérir Brunhild, reine d'Islande. S'ensuivent des aventures épiques, des trahisons multiples, du sang, des pleurs et des morts à venger. Mais Siegfried y acquiert la stature du héros germanique absolu.
La littérature de la Renaissance. L'une des découvertes fondatrices de la Renaissance fut celle de l'imprimerie. Et l'un des traits marquants du mouvement, la relecture de l'Antiquité. Comment les gens de plume ont-ils profité de ce contexte particulier? Les humanistes. L'humanisme fait allusion aux humanités, humanores literae, qui par opposition aux lettres divines, divinores literae, font de l'homme le centre de toutes leurs réflexions. Faire ces humanités, longtemps, c'est étudier les auteurs grecs et latins et s'attacher à en faire la traduction. Les humanistes se préoccupent de l'éducation et d'ouvrir de nouvelles branches du savoir. L'écrivain de la Renaissance est profondément marqué par le développement du livre imprimé. Il participe par là même à l'enrichissement de la langue française et au mouvement qui commence à fixer l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Parmi les principaux humanistes du XVIe siècle, citons Guillaume Budé, 1467-1540, philologue. François Rabelais, médecin, prêtre et écrivain. Jacques Amyot, grand aumônier de France et évêque d'Auxerre. La Pléiade. Apparu vers 1563, le mot a d'abord été utilisé pour tourner en dérision l'arrogance des jeunes disciples de l'humaniste Jean Dorat, constitué en brigade. En 1553, Ronsard choisit 7 d'entre eux. Leur nombre n'est pas sans évoquer la Pléiade mythologique des 7 filles d'Atlas changées en constellations. Et surtout, la pléiade des 7 poètes alexandrins du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces 7 hommes, unis par la même volonté de rénover les formes poétiques, se mettent au service d'une langue volontiers érudite. En 1549, ils signent un manifeste pour la défense et illustration de la langue française sous l'égide de Joachim du Bellay. Outre Pierre de Ronsard et du Bellay, on recense Jean-Antoine de Baïf, Étienne Jodel, Jean de la Péruse, Rémi Bello et Jean Dorat. Conscients d'enrichir la langue française, ces jeunes poètes voient dans l'imitation des anciens la possibilité de rompre avec les formes héritées du Moyen-Âge et d'intégrer des genres nobles qu'il avait laissés de côté. La littérature baroque, 1570-1650. Le baroque en littérature se caractérise par la fascination pour le changement, le mouvement, l'instabilité des choses. L'ostentation et la mort sont aussi des thèmes récurrents.
N'oubliez pas les précieuses ridicules. En réaction contre la grossièreté des courtisans à la cour d'Henri IV, les défenseurs du beau langage se regroupent autour de la marquise de Rambouillet. Les salons se développent bientôt et permettent non seulement au beau monde de se rencontrer, aux modes et aux étiquettes de se développer, mais aussi aux questions littéraires d'être ardemment débattues. De là, une préciosité du langage et des manières qui permettent de se distinguer du commun. On emploie abondamment des métaphores, une expression pour une autre, des périphrases telles que « l'astre de la nuit » pour désigner la lune. Molière ne manquera pas de se gausser de ces abus de langage et de l'affectation de ceux qui en usent et abusent. Il leur consacre une comédie, « Les précieuses ridicules », dans laquelle il fait dire à la précieuse Catos, invitant quelqu'un à s'asseoir, « Ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras, il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. »
De 1610 à 1630 se développe la poésie lyrique et épique, dont les principaux auteurs sont Latasse, d'Agrippa d'Aubigné, François de Malherbe, Mathurin Régnier, Louise de Gongora. Le théâtre se développe également grâce à de nombreux auteurs élisabétains comme Christopher Marlowe et William Shakespeare. Le roman connaît une première heure de gloire avec Honoré d'Urfé ou Miguel de Cervantes. Les écrits moraux et spirituels trouvent leur défenseur, par exemple, en la personne de saint François de Sales. À partir de 1630, on assiste à une extension considérable du genre dramatique, dont les principaux auteurs sont Pedro Calderón et Félix Lope de Vega en Espagne. Le genre romanesque s'implante par le biais du roman précieux avec Charles Sorel et Paul Scarron. L'imaginaire est au pouvoir grâce aux contes de Charles Perrault ou aux voyages imaginaires à caractère symbolique de Jonathan Swift. La littérature classique, 1650-1700. Classicus, en latin, désigne un individu de la première classe des citoyens. Classique a aussi pour sens, au XVIe siècle, écrivain de premier ordre. Ce sont les romantiques qui donneront à ce mot son sens actuel. Succédant au baroque, où domine le mélange des genres, les images brillantes et recherchées et le langage précieux, le classicisme s'en distingue par sa recherche de pureté dans la langue, son souci du vraisemblable et de la juste mesure. Tout comme en architecture, il veut plier les efforts créatifs à l'ordre et à la rigueur. La règle des trois unités s'impose au théâtre. Malherbe et Boileau édictent les préceptes de la versification et du beau langage. La prose, en dépit des moqueries de Molière, se discipline, même si l'orthographe n'est pas toujours véritablement fixée.